France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour avec la recherche aux États-Unis.
Kill the cops! And if you're ready to stop Trump and Musk from cutting science.
Nous sommes le 7 mars dernier, des scientifiques mobilisés contre la politique de Trump dans 32 villes américaines. Ce qu'on entend ici, c'est ce qui se passe à Washington. Bonsoir Yazdan Yazdanpana.
Bonsoir.
Professeur Yazdan Pana, spécialiste de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat. Vous êtes aussi directeur de l'ANRS maladies infectieuses. Vous en revenez des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous ont dit vos collègues chercheurs? Vous les avez trouvés dans quel état?
Alors, ils sont très inquiets par ce qui se passe. Je pense que l'impact, on se rend pas compte encore de l'impact que ça va avoir aux États-Unis, mais globalement. Mais ils sont aussi dans le combat.
Mm-hmm.
Alors c'est un combat différent de ce qu'on peut voir, combat des scientifiques, combat de la population en France. C'est un combat plus que des manifestations, c'est peut-être un combat plus juridique, mais ils sont dans le combat. Et je pense que c'est important, il faut aussi que nous, on montre qu'on est avec eux.
À quoi ça ressemble la pression qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'on leur demande d'arrêter de faire, par exemple? Qu'est-ce qu'ils reçoivent dans leur boîte mail, à part vous êtes viré?
Bon, je pense que depuis quelques mois, comme vous savez, sur un certain nombre d'agences d'État, et nous on est plus en contact avec le NIH, National Institute of Health, qui est l'INSERM américain, il y a des gens qui ont été virés.
Ouais.
Il y a des gens à qui on a demandé de ne pas avoir de contact avec d'autres chercheurs à l'étranger. Mmh. Ils n'ont pas pu voyager. Il y avait une conférence sur le VIH début mars. Il y avait plein de tableaux qui devaient avoir des posters scientifiques qui étaient vides parce que les chercheurs ne pouvaient pas se déplacer. Et tout ça, ça a un impact sur la préparation aux pandémies, parce que les chercheurs préparent les innovations aux futures pandémies. Au niveau des universités, c'est un peu différent, parce que là aussi, il y a des pressions sur la diversité, sur le genre, sur le vocabulaire qu'on utilise, ce qu'on dit, et tout ça, c'est gravissime.
On viendra à ce qui se passerait, effectivement, si demain, on se retrouvait à nouveau face à une pandémie. Il y a une question qui me tarabuste. Est-ce que c'est vrai que dans les bâtiments de recherche, il y a désormais des grands tableaux de Trump, de Vance ou de Robert Kennedy, le secrétaire à la santé, sérieusement?
Alors, donc effectivement, c'est une conversation que j'ai eue avec un de mes collègues au NIH, où il y a des bâtiments dans NIH qui est à Bethesda,
à côté de
Washington, et effectivement, ils m'ont dit que dans les bâtiments, il y a une installation de grands portraits de effectivement Monsieur Trump, Monsieur Vance, Monsieur Kennedy et le nouveau directeur de NIH.
Ce qui est quand même assez dingue, non? Enfin,
ça, voilà, ça rappelle.
Voilà, on voit pas ça normalement dans les pays démocratiques. Vous disiez que la résistance avait commencé. Est-ce que ça veut dire que certains hésitent sur la conduite à tenir, rester quitte à se soumettre, justement pour ne pas quitter la place, en se disant que ça repartira de toute façon, un moment ou un autre, et qu'il vaut mieux être là, à ce moment-là, et pas lâcher au moins ce qui reste?
Alors, probablement, au début, tout le monde était dans un état de sidération, en disant, bon, ça va passer, il va y avoir un revirement, etc. Je pense qu'on est parti, en tout cas, sur la durée. Par contre, effectivement, les gens sont en train de sortir de cette sidération de départ, de s'organiser dans le combat. Je pense, oui, c'est important qu'il y ait des gens qui restent pour combattre. Et d'ailleurs, vous avez vu lundi, l'université d'Harvard a dit qu'il refusait de se soumettre à un certain nombre de demandes. Et c'est important.
Les premiers, et peut-être que effectivement, ça donne des idées à d'autres universités. Mais est-ce qu'on a les moyens de fonctionner avec des fonds privés quand on a une université américaine?
Et quand on a une université riche,
quand on est à Harvard,
on peut. C'était le premier à ma connaissance lundi, parce que j'étais là-bas lundi et ils parlaient tous. C'était une signe d'espoir pour les autres. Parce qu'effectivement, on n'a pas peut-être vu beaucoup de résistance de ce type-là. Et j'ai lu aujourd'hui que Berkeley allait suivre. Et vous avez raison, tout le monde ne peut pas le faire. Mais ça commence et je pense que c'est un signe.
Ça veut dire qu'il risque d'y avoir aussi une vitesse au fond à deux vitesses et même des universités à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'avoir des fonds privés peuvent continuer à avancer, ceux qui n'ont pas les moyens. Ça veut dire une recherche aussi divisée par deux, voire pire aux États-Unis, évidemment.
C'est oui, vous avez raison, probablement ceux qui sont beaucoup plus dépendants des financements de l'État.
Public, ouais.
Et de public et fédéral vont avoir beaucoup plus de mal. Mais il faut quelque part que le combat commence.
Yazdan Panin, est-ce que ça veut dire qu'au fond, quand François Hollande propose de créer un statut de réfugié scientifique, les Américains hésitent à la saisir? Est-ce que le meilleur moyen de les aider, au lieu de créer ce statut, c'est d'envoyer de l'argent dans les universités qui résistent ou pas?
Alors ça, je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question difficile. Je pense que par respect pour un certain nombre de gens, il y a aussi des Français qui sont maintenant là-bas et qui travaillent là-bas, qui ont des postes là-bas. Je pense que c'est bien. Par ailleurs, il faut organiser probablement différents piliers. Il y a le pilier d'accueil de ceux qui veulent partir. Mm-hmm. Il est important qu'il y ait des gens qui restent, je pense. Deuxièmement, il y a beaucoup de recherches qui ont été financées dans le monde, et notamment dans un certain nombre de pays à ressources limitées, qui sont arrêtés avec un impact énorme. Troisièmement, il y a les bases de données. Beaucoup de bases de données avec des informations très importantes qui étaient partagées par l'ensemble des chercheurs étaient financées par les Américains. Là aussi, il y a un danger. Donc, c'est certain qu'il faut prendre le paquet entier et avoir un combat pour ce paquet.
Yazdan Panin, on va faire de la politique fiction, mais au fond, pas tant que ça. Vous êtes venu suffisamment de fois ici pour nous parler du Covid et nous prévenir de ce qui pouvait se passer après pour qu'on comprenne que c'est pas tout à fait de la fiction quand même. Si demain revenait une pandémie avec des chercheurs américains qui sont amputés de leurs moyens, amputés de leurs labos, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est très difficile à dire. Il y a des modélisations qui ont été faites maintenant pour essayer, de la même façon qu'on faisait les modélisations pour le Covid, on fait des modélisations pour voir qu'est-ce qui se passe sans le financement américain. Là où c'est le mieux fait, parce qu'il y a le plus de données, c'est sur l'épidémie de VIH. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place aux États-Unis, notamment le PEPFAR par George W. Bush,
à l'époque,
qui était un républicain, pour justement financer la lutte contre le VIH. Il y a eu l'arrêt des financements, arrêtés. S'ils ne sont pas renouvelés, il y a des modélisations qui sortent qui montrent que d'ici 2030, si ces financements ne sont pas remplacés, par exemple, ça va causer 1 à 3 millions de morts dans le monde de plus pour le VIH et plus de 10 millions, 4 à 10 millions de nouvelles infections. Alors qu'on était en train de faire baisser le nombre de nouveaux cas. Il y a d'autres maladies émergentes où c'est exactement la même chose. Et il faut savoir que ce risque n'est pas simplement pour les pays à ressources limitées, mais les maladies transmissibles, si ça démarre, c'est un risque aussi pour nous, l'Europe, la France, les États-Unis. Et donc, c'est incompréhensible. Ça va beaucoup nous pénaliser pour faire face. Ça montre aussi que notre système était trop dépendant des Américains.
Quel cas d'école encore, Yazdan Panin? Il y a demain une pandémie similaire au Covid. Est-ce que nous sommes en mesure de fabriquer un vaccin à la vitesse où nous avons fabriqué un vaccin contre le Covid sans les Américains?
Ça sera... Alors, il faut quand même qu'on...
Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les Américains il y a 5 ans, on serait encore en train de le chercher, en fait?
Non, je pense que ça c'est exagéré. On sera beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile. Et aujourd'hui, on est dans un état de sidération. C'est vrai que les Américains vont nous manquer. C'est vrai que la lutte contre une épidémie, une pandémie, c'est global. C'est pas national, c'est pas régional. Donc c'est important que la lutte soit globale. Mais il faut qu'on se pose aussi des questions sur le modèle qu'on avait, qui était beaucoup trop dépendant des Américains. Donc il est extrêmement important de se réinventer à partir de ce qui se passe. Et l'Europe doit avoir un rôle très important. Les pays à ressources limitées doivent plus et mieux se prendre en charge.
L'accord qui a été passé avec l'OMS, donc sans les États-Unis, mais qui est une vraie victoire pour les pandémies à venir. Est-ce que c'est le début de notre indépendance à tous sans les Américains? Est-ce que c'était une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que ça se modélise en fait? On n'est pas perdu intégralement sans eux?
C'est vous parlez de traité pandémie.
Traité pandémie, ouais.
Qui est extrêmement important et je voulais ici remercier l'ambassadrice Claire Amproux qui a beaucoup lutté, et la France, pour qu'elle s'est traitée et existe. Et ça montre qu'il y a peut-être des modèles sans les États-Unis, mais encore une fois, c'est important de ramener les Américains, mais c'est important aussi de ne pas dépendant d'un seul pays.
Mais alors c'est vrai qu'on se dit que ça peut être aussi un mal pour un bien, on a eu ce même débat au sujet de la défense finalement et de tellement d'autres choses, mais est-ce que ça veut dire que la recherche française, on sait bien qu'elle court après l'argent depuis très longtemps, donc c'est l'occasion justement de gonfler les budgets, d'essayer de pallier l'érosion de la recherche internationale, c'est maintenant ou jamais.
C'est important que la France et l'Europe puissent aussi, à partir de là, être plus ambitieux qu'avant.
Parce que les États-Unis, enfin, je veux dire, je lis un chiffre en préparant cette émission, c'est le pays qui a eu le plus de prix Nobel ces dernières années, et un tiers de ces prix Nobel, c'était des étrangers. Donc c'est quand même un chiffre intéressant. Les États-Unis, c'était une attraction pour les jeunes chercheurs. Qui en Europe est l'attraction pour les jeunes chercheurs ? Qui a envie de venir chez nous, ou chez les Anglais, ou de nous oublier d'aller à Singapour ?
L'Europe reste encore attractive. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'autoflagellation. On a beaucoup, beaucoup, et je peux vous le dire, parce qu'on est en contact avec les Africains, les Brésiliens, les personnes en Asie du Sud-Est, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'améliore.
Mm-hmm.
Et on est toujours attractif.
S'améliorer, ça veut dire plus d'argent, ça veut dire des labos plus performants, ça veut dire quoi ?
S'améliorer, c'est plus d'argent, peut-être une culture qui prend plus de risques, être plus ouvert au monde, ne pas s'enfermer sur soi, de faire des choses pour que les jeunes reviennent vers la recherche. Donc c'est tout ça. Et on a tous les moyens, et on a toute l'expertise, et on a les infrastructures pour le faire. La France et l'Europe ont beaucoup de richesses, et les autres pays sont très intéressés.
J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui est le plus déprimant ? Vous avez le droit de répondre les deux. Hein. C'est que les labos ferment, les chercheurs sont renvoyés, ou que le secrétaire d'État à la Santé, Robert F. Kennedy, soit un antivax. L'antivax que l'on connaît, on sait aussi ce qu'il préconise, notamment contre la rougeole, la vitamine A, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un ensemble, quoi.
Alors, tout ça, c'est très déprimant, mais j'ai eu avec un collègue à NIH, qui, lui, a été mis en vacances de poste, ils appellent ça administrative leave, et qui m'a dit qu'il faut surtout être optimiste et il faut aller au combat.
Ben écoutez, on va rester sur ce mot d'optimisme. Yazdan Pana, vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde à Taïwan, avec des pilotes qui doivent répondre à chaque intrusion chinoise dans leur espace aérien, pour aller ensemble jusqu'à 19h. Il y a Lise Roseveille sous les radars.
On part en Andalousie où les champs d'oliviers sont rasés pour installer des panneaux solaires. La production d'huile d'olivier est pourtant une tradition.
Le Monde à 18h50 et Alexandre Jublin. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Fabienne, on va se demander pourquoi on a du mal à parler de la guerre et des armées en France.
La tech la première et Stéphane Jourdain. Salut
Bonsoir
Stéphane.
Bonsoir Fabienne, c'est pas l'époque mais on est sur une chronique Halloween qui parle de zombies numériques et qui fait peur.
Allez, restez avec nous. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par l'Italie avec celui qui a fait la BO du Règne Animal, Andrea Laszlo De Simone. Un momento migliore, un morceau qui est sorti le soir de la Saint-Sylvestre. Figurez-vous, c'est un espoir pour un monde meilleur. Et c'est le choix de Djoubaka dans la playlist d'Inter.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino. Di non seguir l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero. L'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto
e ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile, forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Ma nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore. Nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore.
Le reportage ce soir est à Taïwan avec des pilotes de chasse, ceux et celles qui sont en première ligne face à la Chine. Et la Chine, vous le savez, n'est pas avare de provocations. Plus de 3000 fois l'année dernière, des avions de son armée sont entrés dans l'espace d'identification aérienne Taïwan. Une pression permanente qui use les appareils et les pilotes parce qu'il faut multiplier les heures de vol pour marquer le territoire de l'île. Et le reste, c'est Nicolas Roca qui raconte.
À quelques kilomètres du siège de TSMC, l'usine qui construit la plupart des semi-conducteurs de pointe, ces puces vitales pour l'économie de la planète, se trouve une autre installation clé pour Taïwan. La base aérienne de Hsinchu, sur la côte ouest, est chargée de protéger la capitale Taipei, 90 km plus au nord. L'armée taïwanaise nous a ouvert ses portes. On nous emmène vers deux gigantesques pistes d'atterrissage bordées par des hangars qui protègent pilotes et avions en cas de bombardement. À l'intérieur, des hommes effectuent les derniers préparatifs avant un vol d'entraînement.
Pas de fuite d'huile. Ça, c'est bon, c'est OK. Là, c'est dans la bonne position. C'est le bon câble connecté. On vérifie aussi les pneus et le système de freinage. La plupart du temps, ça nous prend environ 5 minutes. Mais si nous sommes dans une situation d'urgence, on a une procédure plus courte pour ces décollages d'urgence.
À l'image du lieutenant-colonel Wu Mengzhi, ce pilote de chasse qui multiplie les heures de vol, les avions ne cessent de décoller et d'atterrir sur les pistes d'atterrissage. Car face aux incursions chinoises, ces pilotes doivent aller marquer le terrain.
La plupart du temps, il y a des avions déjà dans les airs, en patrouille. Et si le commandement estime qu'il est nécessaire d'effectuer en plus des décollages rapides, ils nous donneront l'ordre de le faire. Mais en général, c'est aux pilotes dans les airs de mener les vérifications.
Est-ce que vous leur dites de repartir, d'opérer un demi-tour ?
Nous, on vérifie juste leur présence. On ne peut pas faire de manœuvres trop agressives. Ce sont à nos centres de commandement de faire les annonces. On ne peut pas avoir de contact direct avec le pilote d'en face. Notre centre de commandement va communiquer et dire « Notre limite est ici, mais vous ne pouvez pas la franchir. » Les Chinois, eux, vont utiliser la fréquence que l'on utilise entre avions pour les urgences pour dire « C'est notre territoire, on fait ce qu'on veut. »
À chaque fois, vous les entendez ?
Oui, oui, ils disent « C'est notre territoire, notre espace aérien, on effectue nos exercices de routine. » Mais en fait, ils sont déjà dans notre espace d'identification aérienne.
Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez envie de répondre ?
Il y a des moments où c'est dur de s'en empêcher. Mais on ne peut pas le faire.
Il garde son sang-froid car il connaît son métier et ses avions par cœur. Il vole sur des Mirage 2000 livrés par la France à la fin des années 1990. Maintenant, seuls les États-Unis acceptent de vendre des armes à Taïwan. Et malgré leur carlingue très usée, ces Mirages français sont toujours opérationnels. Est-ce que vous sentez un décalage avec les capacités des avions de chasse chinois ?
On ne connaît pas l'état réel de leurs forces. On sait, d'après les informations publiques, que leur radar a une plus grande portée, que leurs missiles ont une plus grande portée, que leurs avions sont plus avancés. Mais tout cela est très relatif, car après tout, leurs avions ne sont pas allés au combat, ils n'ont pas d'expérience réelle de combat.
Pas d'expérience réelle, mais une flotte nettement supérieure, avec sa cinquantaine de Mirage, CF-16 américains et des chasseurs produits localement. Les près de 400 avions de chasse taïwanais ne pèsent pas lourd face aux plus de 1500 dont dispose la Chine, un chiffre qui ne cesse de grimper.
Nicolas Roca pour le reportage à Taïwan. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Lise Rosveille. Et c'est d'abord dans un village d'Andalousie que nous sommes, donc en Espagne, où les champs d'oliviers sont rasés pour installer des panneaux solaires.
Dans le petit village de l'Opéra, 3600 habitants, tout tourne autour de l'huile d'olive. Depuis des décennies, de père en fils, les agriculteurs se transmettent leurs terres, des champs d'oliviers à perte de vue. La province concentre plus d'un tiers de la production espagnole d'huile d'olive. Le pays est l'un des principaux exportateurs mondiaux. Mais l'Andalousie est aussi connue pour son soleil, 3000 heures par an. Ça attire évidemment la convoitise des spécialistes du photovoltaïque. Des entreprises privées veulent installer 8 parcs solaires dans le village de l'Opéra en signant des accords avec les agriculteurs. Certains propriétaires ont déjà accepté et pour les autres, le gouvernement régional compte les exproprier au nom de l'intérêt public. Les agriculteurs crient au scandale et parlent même d'un crime. D'après leurs calculs, 100 000 arbres sont menacés, 13 000 selon les autorités. Et c'est toute l'économie du village qui est en danger. Les agriculteurs lancent une procédure judiciaire contre le gouvernement régional et manifeste régulièrement. Une bataille donc entre l'huile d'olive et les panneaux solaires, entre une tradition ancestrale et une nouvelle manne financière.
Direction Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, la municipalité, Lise, s'attaque au business des cours particuliers.
La mairie interdit désormais les cours particuliers après 20 heures, parce que oui, au Vietnam, c'est courant pour les élèves de revoir leurs leçons et d'enchaîner les exercices en soirée. Ils subissent une véritable pression pour réussir à l'école, avec des programmes sélectifs et des concours dans ce pays communiste. Les professeurs eux-mêmes les poussent à prendre des cours du soir. Le business est donc florissant. Ho Chi Minh Ville compte 1300 centres de cours particuliers et 3300 professeurs. La municipalité avait déjà interdit les cours particuliers en primaire et demandé à tous les enseignants de voir tout le programme à l'école en journée pour éviter le recours à ces cours particuliers. Avec cette nouvelle mesure, les autorités veulent aussi préserver la santé des enfants et leur permettre de passer plus de temps en famille.
Et nous partons pour finir aux îles Tuvalu, au cœur de l'océan Pacifique. Des machines vont transformer le quotidien des habitants.
L'archipel polynésien vient de recevoir ses tout premiers distributeurs de billets. 5 machines inaugurées en grande pompe au siège de la Banque Nationale. Jusque-là, les 12 000 habitants de cet état insulaire vivaient sans distributeur. À titre de comparaison, en France, on en a depuis plus de 70 ans. Chaque mois, les habitants des îles Tuvalu font donc la queue à la banque pour retirer leur salaire en liquide, provoquant des files d'attente interminables. Ils gardent ensuite tous les billets et les dépenses jusqu'au mois suivant. Les billets sont essentiels dans le pays parce que les transactions du quotidien se font uniquement en espèces, impossible de payer par carte. Les habitants n'ont donc pas de carte bleue. Alors comment vont-ils retirer leur argent au distributeur, vous me direz ? Eh bien, ils vont recevoir une carte prépayée pour commencer, avant qu'un véritable système de carte Visa se développe sur l'archipel. Ils pourront ensuite faire des achats en ligne à l'autre bout de la planète. Une nouvelle ère donc.
Alors, il faudra quand même leur apporter leur colis en plein milieu du Pacifique. Lise, merci beaucoup. Vous partez en passant par le Danemark avec Agnès Sobel. Elle raconte l'histoire d'une femme qui est au bord d'une rivière et qui contemple l'autre rive. Ça s'appelle Riverside.
By the water, the river.
Sobel et Riverside sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Alexandre Dublin.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Et aujourd'hui, Alexandre, pour votre dernière chronique, vous voulez nous parler de la place des questions militaires en France.
Oui, effectivement, Fabienne, et d'autant plus volontiers que ça me permet de vous remercier, vous et toute l'équipe d'Un jour dans le monde, pour votre accueil et pour cette opportunité de parler de questions de défense sur le service public et une heure de grande écoute. En effet, il faut dire que ça n'existe pas, ou presque, dans les médias généralistes français, un tel espace pour parler de questions militaires en tant que telles, et pas seulement comme un angle supplémentaire pour analyser une actualité. Et ce constat factuel nous ouvre vers un immense chantier qui est celui de la place, ou plutôt de la non-place, des questions de défense dans le débat et le paysage médiatique français.
Et selon vous, c'est une tendance de très long terme.
Oui, je crois que tout ça s'inscrit dans un paysage plus large, depuis sans doute la fin de la guerre froide et très certainement depuis la suspension du service militaire en 1996, qui est celui d'un éloignement progressif du domaine militaire de la société française dans son ensemble. Alors, je ne veux évidemment pas dire qu'on ne parle jamais d'armée ou de soldats. Il y a bien sûr eu des drames et des guerres depuis 30 ans, Afghanistan, Irak, Sahel et tant d'autres, dont il était difficile d'effacer complètement la dimension militaire. Mais il me semble que c'était toujours à travers un traitement assez distant, et notamment en France, quand on parlait des armées, pendant longtemps, c'était presque toujours pour parler des grands équipements emblématiques, le porte-avions Charles de Gaulle, le Rafale, ou des unités d'élite exceptionnelles comme les commandos, et rarement des forces normales dont on parlait ce mardi. C'est ce qu'a notamment théorisé l'historienne Bénédicte Chéron en parlant d'un effacement de la fonction combattante dans ce traitement médiatique, d'où le choc particulier quand des militaires meurent au combat, par exemple en 2008, lors de l'embuscade d'Ouzbine.
Mais alors est-ce qu'on ne devrait pas, dans le fond, plutôt se réjouir d'avoir un débat plus pacifiste, moins centré sur la guerre qu'à d'autres époques ?
Oui, bien sûr, dans une certaine mesure, et c'est très bien conceptuellement le pacifisme, parce qu'en fait, personne n'a envie de faire la guerre, et encore heureux. Alors je vais dire des platitudes, mais c'est quand même vrai, la guerre c'est terrible, c'est déprimant, et quoi qu'on puisse en dire, ça fait plaisir à personne d'investir dans des armes, et encore moins de les utiliser, parce que tout le monde en sort toujours perdant. J'ajoute même que c'est un avis qui me semble partagé par l'immense majorité des militaires, contrairement à ce qu'on pense parfois, parce qu'en fait quand il y a une guerre, eh ben, c'est eux qui meurent en premier, et croyez-moi, ils en sont très conscients. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il ne suffit pas de ne pas parler de la guerre pour qu'elle n'arrive pas, les Ukrainiens peuvent vous en dire quelque chose, ce qui recoupe des biais cognitifs, bien connus et identifiés, biais de confirmation, biais d'optimisme, qui font qu'on a tendance à ne pas vouloir envisager les choses dont on ne veut pas qu'elles se produisent. Un exemple éclatant, c'est notre capacité collective à ne pas croire début 2022 à l'invasion russe de l'Ukraine, dont les signes avant-coureurs sautaient pourtant aux yeux. Et je crois que le discours en France sur ces questions est très marqué par cette tendance, que je qualifierais de pensée magique. C'est-à-dire cette idée que si on ne pense pas à la guerre, elle n'arrivera pas.
C'est un débat pourtant nécessaire, selon vous.
Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire du monde, la paix, c'est malheureusement l'exception plus que la règle. Et d'ailleurs, très honnêtement, il y a un peu qu'en Occident qu'on a pu penser le contraire. On vit dans une parenthèse de paix depuis quelques décennies, mais allez poser la question en Asie, en Afrique et surtout au Moyen-Orient, si la guerre est absente des esprits là-bas. La réponse est évidemment pas du tout. On y sait bien que l'histoire est tragique et les conflits nombreux, comme on a semblé le redécouvrir en France et en Europe en 2022. C'est une parenthèse sans doute dorée dont on sort, où on pouvait ne pas investir dans la défense à un point inédit dans l'histoire occidentale. C'était merveilleux, réellement. mais on en sort. Et je crois malheureusement que c'est pas en se mettant la tête dans le sable, ni en évitant d'en parler, qu'on va pouvoir jouer les prolongations, bien au contraire.
Alexandre Jublin, évadé donc toute cette semaine de son podcast Le Collimateur. Merci beaucoup, Alexandre, c'était un plaisir. Revenez quand vous voulez. Le jeudi, Stéphane Jourdain plonge dans l'IA et le numérique, c'est la Tech la Première.
France Inter, le 18/20.
Et alors, vous nous parlez ce soir, Stéphane, d'une espèce assez bizarre qui envahit nos villes, les smombies.
Eh oui, les smombies, vous en côtoyez sûrement sans le savoir, Fabienne. Peut-être même que vous en avez dans votre famille. Peut-être même que vous en êtes une vous-même. Ah ben, ça m'étonnerait, parce que je vous connais un peu.
Merci.
Les smombies, je vous préviens, Fabienne, une fois qu'on sait ce que c'est, on les remarque partout dans la rue.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Les smombies, c'est la contraction de smartphone et zombies. Ces zombies numériques tellement absorbés par les écrans qu'ils en oublient leur environnement urbain. Ils sont de plus en plus nombreux à Séoul. Écoutez bien, sur 10 accidents de la route impliquant des piétons, 6 sont dus à des smombies. Et les villes sont bien obligées de s'adapter. Hubert Béroche, enseignant à la Sorbonne, vient de leur consacrer un livre. Il nous donne quelques exemples d'aménagement urbain spécial smombies.
Ce qu'on peut voir par exemple à Séoul, à l'intersection de certaines rues, ce sont des LED lumineux au sol, au bord des trottoirs, qui vont indiquer au smombie la couleur du feu rouge, de manière à ce qu'il n'ait pas à lever les yeux de son écran pour en être averti. En Allemagne, cette fois-ci, on voit des villes qui, elles, ont décidé d'avoir un dispositif relativement similaire, non pas au bord de la route, mais au bord du tramway, pour empêcher à nouveau les smombies de se faire percuter, cette fois-ci, par des tramways. Et ailleurs dans le monde, alors c'est également le cas en Australie, c'est également le cas à Tel Aviv, où on voit ces infrastructures lumineuses également émerger pour protéger les smombies de ces villes.
Des lumières rouges installées directement dans le trottoir pour alerter les piétons absorbés par leur téléphone, vous avez bien entendu.
Sérieusement.
À Hong Kong, les autorités ont créé des voies dédiées, comme des pistes cyclables, mais pour les piétons qui marchent en regardant leur téléphone.
Et la France, Stéphane, n'est pas épargnée.
Et non, à Paris, la ligne de bus 39 expérimente un message d'alerte pour les piétons qui s'approchent du bus. S'ils ont téléchargé l'application AMY, A-M-Y, l'écran de leur téléphone devient tout rouge quand le conducteur actionne le gong du bus. En France, 65% des piétons avouent consulter leur téléphone en marchant dans la rue et en traversant. Ça monte à 90% chez les moins de 34 ans, selon cette étude. Titre de l'étude, la nomophobie transforme les Français en smombies et devient le nouvel ennemi de la sécurité routière.
Nomophobie ?
C'est la phobie d'être séparé de son téléphone, même 5 minutes.
Et alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Le micro-ciblage, Fabienne. Nous sommes happés par les algorithmes des géants de la tech.
Derrière ces smombies, il y a en fait toute une économie de l'attention qui s'articule autour d'acteurs, autour de belligérants qui sont notamment des grandes entreprises du numérique, comme Meta, comme TikTok. Ces acteurs du numérique utilisent notamment des algorithmes de micro-ciblage pour affiner leur capacité à capter et marchander votre attention. Ces algorithmes de micro-ciblage sont devenus tellement puissants qu'on en vient à être hypnotisé littéralement par ces écrans et ne plus être capable d'être conscient de ce qui nous entoure.
Bref, TikTok et Instagram nous hypnotisent.
Et donc derrière, ces smombies redessinent nos villes.
Qu'elles le veuillent ou non, à New York, c'est voulu. Les cabines téléphoniques ont été remplacées par des bornes Wi-Fi haut débit. Aux abords de ces bornes, les gens sont le nez sur le téléphone. À Paris, c'est plutôt subi. Explique Hervé Béroche.
L'application Google Maps va avoir tendance à diriger ses utilisateurs vers des zones d'intérêt, des zones commerciales, qui ne vont pas être, par exemple, l'île de la Cité, qui, elle, est un centre historique, mais jugé moins pertinent, moins intéressant par l'application.
Bref, Fabienne, si vous voulez éviter ces smombies, foncez sur l'île de la Cité.
Alors, est-ce qu'il faut s'adapter justement à ces smombies ou lutter contre les smombies ?
Grande question. Pour Stéphane Schultz, consultant en innovation, spécialiste de la tech et des espaces urbains, il ne faut surtout pas que les villes s'adaptent.
Le fait que les gens soient sur leur smartphone, c'est un signe d'échec et la manière de résoudre cet échec, c'est pas de les mettre dans une ligne spécifique. La manière de résoudre cet échec, c'est de leur donner envie de lever la tête avec des choses à faire, avec des choses à regarder, avec des endroits où il y a de l'ombre, des endroits où on peut s'arrêter, on peut boire, on peut rencontrer des gens. Donc, là où il y a ces endroits-là, et à Paris, il y en a beaucoup, et dans les villes européennes, il y en a beaucoup, les gens passent pas leur temps sur leur smartphone, quoi. Pour moi, la solution, elle est beaucoup plus dans l'aménagement urbain de qualité fin, qui fait qu'on a envie de lever la tête, on a envie de regarder les gens autour de soi, travailler beaucoup plus sur la qualité de l'espace public au niveau du piéton, au niveau de la poussette de l'enfant, au niveau des personnes âgées, du rythme qu'elles ont, et et à ce moment-là, ils n'auront pas envie de sortir leur smartphone et ils préféreront lever la tête.
Il faut leur faire lever la tête et que les géants de la tech ne soient pas les seuls à numériser l'espace public.
Pendant longtemps, en fait, les villes ne se sont pas intéressées à ce sujet-là. Et donc, la nature ayant horreur du vide, c'est des géants comme Google ou Uber qui ont occupé cet espace. Donc, Google a numérisé l'espace public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a créé, en fait, justement, ces référentiels qui permettent de faire fonctionner tous les autres services. Alors, on pense à la carte, évidemment, mais aussi aux horaires de transport, mais aussi la capacité à guider des gens, à guider même des véhicules. Hein. On le voit à San Francisco avec les navettes Waymo. Et récemment, en fait, les villes reprennent la main, proposant justement une couche numérique qui serve de référence pour tous les autres services, qui permettent de moins dépendre de solutions extra-européennes pour se déplacer et puis pour développer tous ces services.
Mais Stéphane, les citadins que nous sommes, comment peuvent-ils reprendre la main ?
Comment ne plus être un zombie numérique ? C'est bien une question de smombie, ça. Voici Fabienne, les petits conseils d'Hubert Béroche.
Ça va être d'avoir des moments détox. Ça va être de mettre son écran en noir et blanc. Ça va être d'arrêter tout simplement les écrans pour passer à des téléphones clapés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, des éthiques des écrans.
Des éthiques des écrans, pas capable de passer au téléphone à clapet, Fabienne.
J'adorerais mon téléphone à clapet, Stéphane. Je voudrais aussi arrêter la planète et descendre, si je puis me permettre, Stéphane. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.